Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Déjà dimanche soir, et quoi de plus agréable que de nous retrouver pour terminer ensemble cette semaine et nous ouvrir à celle qui arrive. Passer cette fin de soirée en prenant le temps de se poser, de parler, d'écouter. Laissez donc sortir tous ces mots qui sont à l'intérieur de vous, ne les enfermez pas, car plus ils sont enfermés, plus ils font mal. Venez me parler de vous, de ce qui fait votre vie, venez me raconter vos expériences, celles qui vous ont fait du mal, mais aussi celles qui vous ont fait grandir. Venez prendre la parole en appelant le 3921. Au bout du fil, vous aurez Amandine ou Hassan qui vous guideront jusqu'à moi vers ce studio propice aux confidences. Vous le savez, comme chaque soir, vous pouvez aussi participer par SMS. Vous faites le 739-21 en commençant par le mot « nuit ». Vos SMS sont importants pour apporter un soutien à celui ou celle que vous écoutez, apporter une idée, une solution si vous en avez une, mais aussi pour demander à intervenir sur l'antenne si vous voulez réagir en direct. Ce soir, au manège, j'ai le plaisir de retrouver Fabrice Fougerouze. Alors si tout le monde est prêt, la libre antenne, ça commence maintenant.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Et dans un instant, on va ouvrir cette libre antenne avec Sandrine qui s'est enlisée dans une relation qui ne paraît pas très réjouissante. A tout de suite. Et on débute donc cette libre antenne avec vous, Sandrine, bonsoir.
Oui, bonsoir Sabine.
Bienvenue.
Ben, merci.
Alors racontez-moi un petit peu cette histoire et cette rencontre.
Ben, comme vous l'avez dit Sabine, ben, en fin de compte c'est vrai, je me suis peut-être et sûrement j'en sais rien enlisée dans une relation pas très réjouissante comme vous l'avez dit effectivement. Donc c'est une relation qui a commencé il y a 9 mois, où tout a démarré on va dire sur les chapeaux de roue.
Comment vous êtes rencontrée, comment ça a commencé cette histoire-là?
Eh bien, en fin de compte, on se connaissait déjà un petit peu sur une piste de danse, on va dire ça comme ça, pas régulièrement, puisque je n'y allais pas très souvent. Donc, on se connaissait le bonjour, le simple bonjour, et puis le comment vas-tu, on va dire, hein, rien de plus. Et puis, c'est vrai que c'est quelqu'un qui... j'étais pas non plus indifférente à son physique, on va dire, au charme qu'il a. Mmh. Et je me suis dit, non, c'est pas fait, il n'est pas fait pour moi, il est même trop bien pour moi. En fin de compte, je suis quelqu'un qui me sous-estime énormément, malheureusement. Oui. Et finalement, ben, les choses arrivent à que je suis sortie un soir et j'ai laissé faire les choses. Et finalement, ben, ce qui arriva, arriva. Et à partir du lendemain, eh bien, on ne s'est plus quitté, entre guillemets.
Oui.
On ne s'est plus quitté, entre guillemets, entre les retrouvailles et les séparations. On va dire ça comme ça. Donc, il m'a demandé... le lendemain, on a passé l'après-midi ensemble. Le soir, j'ai dormi chez lui. Et pendant un mois, sans m'en rendre compte, j'ai lâché un petit peu mon appartement, ma fille qui a 18 ans. Sans m'en rendre réellement compte pour lui faire plaisir parce qu'il me voulait à côté de lui. Donc il est gérant d'un établissement et effectivement, il est quand même sur une disponibilité qui est quand même assez moindre. Mmh. Voilà, je ne citerai pas son activité, mais donc voilà, il a très peu de disponibilité. Donc je suis restée avec lui pendant un mois. J'étais en arrêt maladie et... pour lui faire plaisir, mais ça m'a fait un petit peu bizarre, puisque ça fait quand même plus de 10 ans que je vis seule, avec ma fille, on va dire, et sans quitter mon chez-moi, donc ça a été, mais j'ai voulu lui faire plaisir, parce que bon, c'est quelqu'un comme je vous l'ai dit, qui me paraissait, enfin voilà, je n'en étais pas insensible, et je me suis dit, ben pourquoi pas, est-ce que j'ai peut-être cette chance d'entamer une belle relation, et puis voilà, je vais lui faire plaisir, tout simplement.
Mais est-ce que vous, ça vous faisait plaisir, Sandrine?
Mais en fin de compte, j'étais en arrêt maladie avec j'avais fait une en fin de compte mentalement, j'étais très très fatiguée parce que j'avais une suspicion d'AVC à cette époque-là et j'avais besoin de beaucoup de repos mental. Donc je m'en rendais pas vraiment compte, j'étais un petit peu à, on va pas dire à l'ouest, mais je
j'étais vraiment fatiguée. Vous laissiez un peu porter par tout ça.
Exactement, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est je me laissais un peu porter. Mmh. Ouais, c'est exactement ça. Et donc, suite à ça, ben, je suis rentrée chez moi. Ma fille était très contente d'avoir eu l'appartement rien que pour elle-même, malgré tout. Mais bon, moi, ça m'a fait un choc quand même de l'avoir laissée un mois toute seule. Et je revenais vraiment rapidement pour récupérer des vêtements, etc., etc. Mais je ne dormais plus chez moi du tout. En fin de compte, je ne vivais plus du tout chez moi. Mmh. Et au bout d'un mois, c'est lui qui m'a demandé de venir à l'appartement. Bon, il habite pas très loin. Hein. Il habite à 10 minutes en voiture, donc c'est vraiment pas très loin. Et ce que j'ai accepté, mais en ne laissant aucun vêtement, rien du tout, parce que moi, pour moi, c'était une situation quand même très difficile, puisque bon, j'avais pas eu de, voilà, je vivais seule et c'était pour moi très compliqué de commencer à avoir des vêtements, sous-vêtements ou des changes d'un homme, voilà, c'était pour moi impensable.
Ça allait un peu vite aussi, peut-être.
Ça allait trop vite.
Et
pour
lui,
moi.
Ça faisait longtemps qu'il était seul, lui?
En fin de compte, non, ça faisait pas très longtemps. Il était dans une relation auparavant qui avait duré environ un an. D'une personne qui, paraît-il, profitait de lui, de son argent, de son rang social, on va dire. Mmh. Et donc, voilà, et lui, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de caractère, qui se laisse beaucoup faire et qui ne sait pas dire non. Il ne sait pas dire non, c'est-à-dire qu'il va toujours dire oui, parce que il aime pas faire du mal aux gens.
Il a peut-être peur des conflits aussi.
Il a peut-être peur des conflits également, oui, exactement. Mmh. Ouais. Mmh. Ouais.
Donc les choses s'emballent, vous vous retrouvez un petit peu malgré vous, beaucoup plus souvent chez lui que chez vous.
Ben, les choses s'emballent, oui. Après, moi, je décide de rester chez moi et que lui vienne chez moi, que moi, il n'est plus question d'aller chez lui, on va dire, parce que j'avais besoin aussi de retrouver mes repères, ma vie, ma bulle également, puisque bon, mon appartement, c'est également ma petite protection, on va dire. Hein. Mais voilà, c'est mon chez-moi, c'est là où je me sens le mieux.
Votre cocon.
C'est mon cocon, oui, tout simplement, ouais, c'est mon cocon, c'est là où je me sens le mieux, on va dire, voilà. Et progressivement, eh bien, voilà, au bout d'un mois, il a voulu que je fasse connaissance de sa famille. Pour moi, c'était impensable, c'était encore impossible. Je me suis dit, c'est trop tôt, je suis pas à la hauteur, et puis c'est trop tôt, je me vois pas rencontrer sa famille aussi rapidement non plus. Ensuite, ben, j'ai refusé d'aller à des anniversaires, etc., parce que, ben, j'avais besoin de ressentir le moment, et non pas comme lui, il le voulait. Donc, ça a été terrible, parce qu'il le comprenait pas, il le comprenait pas. Lui, c'est quelqu'un qui est très famille. Moi, je suis pas du tout famille.
Mais quand vous dites ça a été terrible, c'est-à-dire dans sa réaction verbale, physique?
Non, pour moi, ça a été terrible de lui dire non et de lui dire que je ne peux pas parce que j'en suis pas capable. Donc, lui, il le prenait pas bien parce qu'il comprenait pas le fait qu'il voulait construire avec moi parce qu'il me disait n'avoir jamais ressenti des sentiments aussi profonds pour une personne. Mmh. Et lui refusait justement d'aller avec lui voir sa famille, ses parents, sa sœur, etc., etc.
Vous n'étiez pas en face, quoi.
Ah non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Et je suis quelqu'un qui manque énormément de confiance en moi. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui... Je suis pas assez bien pour lui. C'est des choses qui revenaient. Et puis, tout est arrivé trop rapidement. Je suis arrivée dans un tourbillon, on va dire. C'était une spirale. Et une spirale... que je me suis dit, bon ben, donc j'ai un ami qui habite dans le nord, bon ben, c'est un petit peu trop loin pour le voir tous les jours, et voilà, mais on échangeait pas mal, et il me disait, tu sais, vous êtes sur deux planètes différentes, il faut que tu le comprennes, et beaucoup de clash. Il n'y avait pas une semaine où il n'y avait pas des clashs, d'incompréhension. Je suis quelqu'un, je suis une personne qu'il faut me connaître. Je suis quelqu'un qui a roulé ma bosse, on va dire. Voilà, symboliquement parlant, on va dire. J'ai
l'impression qu'il faut vous apprivoiser surtout.
Exactement. Mm. C'est les mots.
Ouais. Et que lui, il a passé l'étape apprivoisement, quoi.
Il me connaît pas.
Oui, c'est ça. Il a foncé droit devant sans prendre. Il a pas tenu compte de votre personnalité, de votre parcours et de tout ça, quoi.
Je lui ai dit tout ça, mais malgré tout, il me disait sans arrêt, le passé, il est derrière. Et je me suis tellement sentie déséquilibrée dans cette relation que j'ai dû aller voir une psychothérapeute, qui a essayé de me faire sortir mon passé. En fin de compte, les souffrances terribles de mon passé par rapport à certains hommes. Et arrivé à un moment, en fin de compte, je ne voyais que des démons autour de moi, tellement que c'était terrible ce qui m'arrivait. Je me suis dit, mais je deviens folle, c'est pas possible. Je pleurais tout le temps, je ne me reconnaissais plus, je suis quelqu'un d'assez solaire, j'ai un dynamisme pas possible, je suis joviale, je suis toujours en train de rigoler, je suis un petit clown, on va dire. Mm-hmm. Et puis finalement, je commençais à pleurer tout le temps, à avoir peur de moi, un petit peu comme dans la chanson de Patrick Bruel. Quand il dit que, en fin de compte, dans la chanson, dans les paroles, dit en fin de compte qu'il s'est forgé une personnalité pour éviter justement que les gens voient ce qu'il est exactement parce qu'il avait peur de lui. Mm-hmm. En fin de compte, c'est un petit peu ça, quoi. Mm-hmm. Et la psychothérapeute a fait pire que moi. Elle m'a fait remonter plein de choses qui étaient pour moi parties, on va dire, qui étaient loin. Oui. Et arrivé à un moment, il pouvait plus m'approcher, il y avait plus possibilité de câlin, je pouvais plus me laver, je pouvais plus me mettre. En fin de compte, j'étais en train de me détruire encore.
Ouais. Et donc, à l'issue de cette thérapie, qu'est-ce qu'il en est sorti alors ?
J'ai préféré partir, j'ai préféré arrêter parce que c'était pire que mieux et je me faisais davantage de mal que de bien et que je voulais préserver cette relation et que je devais trouver un autre moyen pour pouvoir m'en sortir. C'est là que j'ai un petit peu cherché sur Internet et j'ai trouvé justement un magnétiseur à 35 km de chez moi.
Juste deux choses que je comprenne bien. En fait, oui. Vous avez arrêté la thérapie parce que ça vous faisait plus de mal que de bien.
Oui.
Finalement, de remonter tout ça, c'est ça que vous me dites. Hein.
Oui, exactement.
Deuxième chose, juste ne mélangez pas hypnothérapeute et magnétiseur. Peut-être que cette personne faisait les deux.
Il fait les deux. Il m'a fait le magnétisme et il m'a fait de l'hypnose.
D'accord. Ouais, je veux juste être très claire là-dessus, ça n'a rien à voir. Hein. Voilà, c'est juste deux pratiques différentes. On est bien d'accord.
Exactement.
Que les gens ne mélangent pas les deux choses.
Ah non, c'est deux pratiques complètement différentes. L'hypnose, en fin de compte, on est installé dans un fauteuil et puis finalement on est entre le semi-sommeil, on va dire, hein, on est dans et puis le magnétisme, en fin de compte, c'est pour retirer justement des choses, mais en fin de compte, sans toucher les mains, quoi. Ouais, non, c'est deux choses différentes. Alors, je crois que les gens se mélangent les pinceaux non plus.
Vous êtes allé le voir pour avec quelle demande cet hypno-là?
Alors, j'ai été le voir en lui demandant de me donner confiance en moi.
Oui.
Et je lui ai expliqué également que je suis dans une relation et que c'est ma dernière chance et qu'il est ma dernière chance. S'il n'arrive pas à m'équilibrer, on va dire ça comme ça, puisque je perdais complètement pied. Je devais arrêter cette relation et je lui en ai parlé à la personne, à mon partenaire. Je lui ai dit, c'est la dernière chance. Mais il faut également que tu comprennes que si ça ne marche pas, on arrête la relation parce que ça sert à rien de se faire davantage souffrir. Est-ce que tu es d'accord? Il m'a répondu oui. Mmh. Et finalement, il a dit oui pour me faire plaisir, mais c'est pas pour ça que j'ai fait 2-3 séances d'hypnose je me sentais bien, je me sentais calme, apaisée, mais de son côté, en fin de compte, j'avais pas de... En fin de compte, qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, il a pas appris à m'apprivoiser. Et c'est ce qui fait que finalement, ça déraille, ça va pas. Ça... J'ai essayé également de le provoquer, on va dire, dans des petits caprices, on va dire, j'en sais rien. Le fait que, tu m'as pas acheté mon gâteau préféré. Voilà, des petits exemples comme ça. Et puis, finalement, il s'en allait chercher mon gâteau préféré. Mais c'est pas ce que j'attendais de lui. J'attendais un répondant.
Ouais. Sandrine, je vais devoir faire une courte pause.
Oui,
et j'aimerais
sûr.
Vous poser quelques questions un peu plus précises sur le travail que vous avez fait et sur l'aboutissement de tout ça. Vous ne bougez pas, s'il vous plaît, je vous récupère dans un petit instant.
D'accord, très bien.
Merci beaucoup, à tout de suite.
À tout de suite.
Envoyez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 en tapant nuit au 739 21. 75 centimes plus coût du SMS.
Sandrine, vous êtes là ?
Oui, je suis là.
Oui, ça a été rapide. Dites-moi, ces quelques séances d'hypnose, qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement ?
L'apaisement.
L'apaisement, mais sur la confiance en vous et l'estime de vous ?
Rien.
Oui, il me semblait bien.
Rien.
Ouais.
Juste le fait que je me sentais plus calme, parce que c'est vrai que des fois, je partais vraiment en crise de nerfs, à péter des câbles, parce que j'avais l'impression qu'il ne me comprenait pas. Je pleurais, j'essayais de me faire comprendre. Mais
quand vous dites « il », c'est le thérapeute ou votre conjoint ?
Mon conjoint.
Votre conjoint, d'accord.
Ouais. Non, je n'ai pas réussi à avoir confiance en moi, non, pas du tout. Et puis, non, je réponds moins aux questions. Non, sinon...
Oui, parce que j'ai eu un doute quand vous m'avez dit, vous êtes allé en lui disant « donnez-moi confiance en moi ». Il aurait dû vous expliquer que c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas une baguette magique, l'hypnose, on ne peut pas donner confiance à quelqu'un. On travaille sur l'origine de la non-confiance. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre histoire de vie pour que vous n'ayez pas confiance en vous ? C'est ça le travail qu'on fait en hypnose. C'est pas « donnez-moi confiance » ou « faites-moi maigrir » ou « faites ci », c'est pas le thérapeute qui fait. C'est la personne qui va chercher les ressources en elle-même. Enfin bon, ça c'est après, ce sera un autre débat. Mais tout ça pour en arriver où, alors, à la fin de ces quelques séances, vous décidez de quitter votre ami ?
Je le décide pas, je lui parle et je lui dis que finalement j'ai envie d'arrêter tout ça parce que finalement j'ai toujours un manque de confiance en moi, que j'arrive pas à me sentir, je me sous-estime énormément et que il a beaucoup trop de classe, de charme, de charisme pour être avec une personne comme moi et que finalement voilà, c'est un peu ça et puis j'essaye d'avoir du répondant, il n'a pas de répondant et puis bon ben il essaie toujours de me faire plaisir, on achète quelque chose en commun pour l'appartement, donc on a après on achète une machine à laver en commun et puis jusqu'à hier soir où finalement, en fin de compte, la chose c'est que des fois j'ai envie de... Avant, je dansais, j'allais danser pour pouvoir justement exploser un petit peu le mal-être en moi. C'était un petit peu ma thérapie, on va dire. Et depuis 9 mois, je ne vais plus danser, je ne fais plus de sport, je n'ai plus que mon travail et lui. Et finalement, c'est assez compliqué. Et lui me disait qu'il fallait pas que j'aille en salle de sport tout seul parce que, je risque de tomber sur des personnes, des hommes. Donc, il faut faire attention.
Il est jaloux.
Ouais, un peu, ouais. Ouais. Donc il me dit, c'est pas que j'ai pas confiance en toi, c'est que j'ai pas confiance aux hommes. Mais
ne pas avoir confiance
en moi, c'est pareil, hein.
Oui, c'est
moi personnellement, c'est pareil.
C'est la phrase facile, ça, que disent les gens jaloux. Non, c'est pas, j'ai pas peur de toi, j'ai peur des autres. C'est pas la réalité, ça.
Donc voilà. Après, j'aimerais bien. J'avais des amis. J'avais des amis, j'ai un ami, un très 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 bon ami à moi qui habite dans le Nord, à part dialoguer, je peux pas aller voir tous les jours, j'ai mon activité, puis le week-end j'ai aussi besoin de repos, en fin de compte, j'ai l'impression d'être en retrait de tout, et puis finalement, ce qui se passe également, c'est lorsqu'on a commencé notre relation tous les deux, lui s'est mis en retrait de ses contacts. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il avait certains contacts sur Facebook, on va dire, même si voilà, j'ai cité le
C'est pas grave.
Et bien en fin de compte, il répondait même plus. Il répondait même plus au contact. Tout ça. Et puis finalement, je me suis fait passer pour la brebis galeuse. C'est-à-dire que finalement, une fois, on rencontre un couple de d'amis à lui, et puis ils lui disent, mais attends, qu'est-ce que ça, comment ça se fait, on te voit plus, tu sors plus, blablabla. Alors il fait, ouais, de toute façon, c'est à cause de Sabine, hein, qui me connaissent également. Ben, je, moi, j'ai rien fait, hein.
J'ai rien fait du tout. C'est la manipulation, ça, Sandrine. C'est très toxique comme façon de faire.
Donc j'ai rien fait et puis finalement aujourd'hui, bah j'ose même plus aller dans sur la piste de danse où je l'ai rencontré parce que tout le monde le connaît et puis finalement aujourd'hui, bah en fin de compte c'est moi la responsable, c'est moi à cause de moi qui parle plus à personne et que moi je lui ai simplement dit méfie-toi des profiteuses, mais c'est pas pour ça que je lui ai dit de faire un tri sur tous les contacts et puis finalement bah voilà.
Vous en êtes où aujourd'hui alors avec lui?
Bah, ce qui s'est passé, c'est qu'hier, je passe à l'antenne malheureusement, mais j'ai appelé les gendarmes parce qu'ils ne voulaient pas partir de chez moi parce que, bon, en fin de compte, on avait passé 2-3 jours très bien. Ça ne dure pas plus d'une semaine à chaque fois. Et 2-3 jours très bien. Et puis hier, en fin de compte, la chose qui m'arrive, c'est que je m'éteins et j'ai de plus en plus un esprit critique à tout. Finalement, j'étais pas comme ça auparavant. J'étais pas quelqu'un qui critiquait les choses.
Mais parce que vous êtes mal dans cette relation, c'est clair.
Et finalement, on regarde une émission à la télévision. Je parle, ah ouais, mais ils sont tous fort maquillés, etc. Ah, je sais pas. J'ai l'impression d'être une personne aigrie à critiquer tout le monde. Que avant, j'étais plutôt, j'étais pas comme ça du tout. Et finalement, je me reconnais pas. Et finalement, il me fait, ouais, de toute façon, il en a marre de tes critiques. Je lui fais, écoute, c'est bien. Je m'en vais coucher. Une bonne nuit. Et point barre. Et je m'en vais coucher, il reste devant la télé. Une heure et demie après, je me lève en lui disant, écoute, je préfère que tu rentres chez toi. T'habites pas loin, je peux rentrer chez toi. Et là, j'éteins la télé. Et puis là, il reste pendant une heure et demie, comme ça, dans le noir, sur son téléphone, en train de faire des jeux, etc., etc. Et là, d'un seul coup, je me lève, je lui fais, écoute, c'est bon, j'ai fait, rentre chez toi, je vais rentrer chez toi. J'ai fait, écoute, moi, si ça continue, je vais appeler les gendarmes. Je sais pas, je suis partie par le moyen le plus fort, je sais pas, mais voilà, ça s'est fait, ça s'est fait.
Vous avez un peu sorti le bazooka pour tuer une mouche, mais bon.
Ouais, et donc j'ai appelé, je suis partie dans ma chambre, j'ai pris le téléphone, là il s'est jeté sur moi, donc il m'a bloqué les bras avec ses jambes, il était complètement sur moi, en me forçant, en essayant d'enlever mon téléphone qui avait dans la main, j'étais accrochée au téléphone, il me l'a pris, une heure et demie après il est resté chez moi encore, avec mon téléphone. Donc, je suis sûre qu'il a également regardé ce qui se passait dans mon téléphone. Et puis, finalement, ma fille est arrivée, puisque bon, elle a 19 ans maintenant, hein, elle est grande, hein, elle est rentrée, elle a rien entendu. Et après, je suis allée voir ma fille en lui demandant s'il était possible d'appeler les gendarmes. C'est pourquoi, j'explique la situation. Parce qu'en fin de compte, ce qu'il m'a dit hier, écoute, il fait, on vit dans le partage. J'ai fait, comment ça, on vit dans le partage? J'ai fait, c'est toi qui voulais une vie de couple, c'est toi qui veux ça. Il me fait, oui, on vit dans le partage. Il me fait, parce qu'on a acheté une machine à laver en commun, on a acheté un matelas en commun, et je paye les courses en commun. Donc, on vit dans le partage, et tu n'as pas le droit de me mettre dehors comme ça. Mais je fais, mais attends, c'est moi qui paye le loyer, c'est pas moi qui paye les charges.
Parce qu'il est clair, vous ne vous comprenez pas tous les deux. Mais comment ça s'est terminé, alors, cette histoire hier soir? Il est parti?
Ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'il a entendu que je contactais les gendarmes, il a réuni toutes ses affaires et il est parti.
Ah, vous avez vraiment fini par appeler les gendarmes?
J'ai appelé parce que je n'avais pas d'autre. En fait, non, j'avais besoin de me retrouver seule. Je voulais pas. J'avais besoin. En fait, non, c'est des choses qui arrivent parfois avec lui. J'ai envie de me retrouver seule chez moi. Je ne peux pas parce que, il s'impose chez moi et je dois prendre ma voiture pour aller faire un tour parce que je vois que sa voiture est devant mon appartement et je dois aller faire un tour parce que je ne peux pas rentrer chez moi pour avoir un petit peu la paix.
Sandrine, vous en êtes où alors ce soir, vous? Pourquoi est-ce que vous m'appelez, en fait? Quel est votre problème?
Mais alors, pourquoi je vous ai appelé? Pour savoir si moi je suis normale, si j'ai des bonnes réactions, si moi je sais plus complètement. Je suis en train de me remuer la tête. Ça tourne en rond dans mon cerveau en me disant Est-ce que c'est moi qui étais normale? Est-ce que c'est lui? Est-ce que le fait d'avoir été trop vite a fait que... J'en sais rien, je suis complètement perdue. Et comme je vous écoute tous les jours, j'écoute l'émission depuis 4-5 ans déjà, puisque je suis déjà passée à l'émission pour un autre problème, on va dire, il y a 4-5 ans, je suis accro à l'émission et je me suis dit, j'ai besoin d'une écoute et de conseils neutres et non pas de mes amis.
Oui, c'est sûr que souvent les amis sont mal placés parce qu'ils sont impliqués émotionnellement. La première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il n'y a pas de normalité, il n'y a pas je suis normale ou je ne suis pas normale, vous êtes vous, c'est tout. Et ce qui est clair, c'est que cette relation elle ne vous convient pas. Vous n'êtes pas bien dedans, il ne vous apporte pas ce que vous cherchez.
Maintenant, j'aimerais avoir un petit peu de moment à moi. Moi, je rentre du travail, je suis commerciale, non, je rentre chez moi, il est là.
On a bien compris, Sandrine, qu'effectivement, vous êtes dans une bulle. Alors, ce qu'il faudrait comprendre, on va pas refaire l'histoire parce que ça va être long et il y a beaucoup de gens qui attendent ce soir, mais il y a une grande fragilité qu'on entend chez vous. Il y a eu des blessures avec les hommes avant. C'est ouais. Ça, si j'ai bien compris.
Et ouais, tout, c'est ça.
Toute votre expérience de vie vous a amené à vous mettre, à vous forger une carapace, à vous mettre dans cette bulle avec votre fille ou seule.
Ouais.
Et ce qui ne vous convient pas, c'est qu'on vous la crève, cette bulle, qu'on vous la crève violemment en vous disant, ben, maintenant c'est la mienne et c'est comme
c'est ça. Mmh. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, Sabine.
Et donc, avant même de parler de lui, c'est de vous qu'il faudrait parler, comprendre pourquoi vous vous protégez à ce point-là, un peu comme un animal sauvage qui n'a pas tellement envie d'être...
Mais c'est ça, je me considère comme un animal sauvage qui n'a pas envie, qui a peur.
Voilà, pour ça, tout à l'heure, je vous disais, il faut vous apprivoiser, mais peut-être c'est difficile, peut-être vous n'êtes pas encore apprivoisable. Ça m'ennuie un peu que vous ayez arrêté cette thérapie parce qu'à l'époque ça ne vous a pas convenu. Mais je conçois qu'en thérapie on fait remonter ce qui fait mal, mais on le fait remonter pour s'en libérer.
Donc c'est sûr. Et est-ce que c'est normal d'avoir après peur de soi, peur de ce qu'on voit autour de soi, de ce qui remonte à la surface? Est-ce que c'est normal?
Alors,
est-ce
oui.
que c'est normal de voir des semblants d'images, de personnages, de...
Oui. D'ailleurs, il y a Muriel qui vient d'envoyer un message pour vous et qui dit « Il semble dommage que vous ayez mis fin à votre psychothérapie au moment où vous commenciez à aborder les vrais problèmes. » Et oui, il y a certains moments quand on soulève des choses. Vous savez, j'ai souvent cette image-là, c'est comme quand on fait un grand ménage de printemps. Il y a un moment où c'est pas agréable. On a tout sorti, c'est crade, il y en a partout. On n'est pas bien. Mais après, quand on a tout nettoyé et qu'on range, alors on est beaucoup mieux. Et dans toute thérapie, c'est pareil. Il y a un moment où c'est pas sympa. On fait remonter plein de choses. On peut avoir effectivement des cauchemars, des visions, des perceptions
ouais,
de choses différentes.
Ouais, c'est ça, j'avais des visions.
Mais dans ces cas-là, le thérapeute est là pour vous accompagner à chaque étape. Et c'est à la personne qui vous accompagne de répondre à ses angoisses et à ses questions. Alors peut-être que c'était pas la bonne personne. Parce que si on vous a laissé avec des angoisses ou des hallucinations...
Ouais, on m'a laissé avec ça, on m'a dit que voilà, ça va passer, il ne faut pas que je m'inquiète. Et
ouais,
je ne pouvais plus, quoi, c'était l'enfer.
Ouais, j'entends bien, mais ça me pose problème. Parce que c'est là qu'il aurait fallu vraiment faire un travail de fond pour vous libérer. Parce que tant que vous n'aurez pas libéré ça, vous ne serez pas prête à vous engager dans une relation. Parce que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez avec un homme. Je me demande si vous n'avez pas...
Est-ce que vous avez peur.
Vous avez eu un papa présent et soutenant et aimant? Ou pas du
non,
tout.
Non, jamais. J'ai pas eu de parents.
Mais c'est ça. Parce que j'ai l'impression.
J'ai été élevée par ma grand-mère.
J'ai l'impression que vous cherchez aussi un père dans cette relation-là. Dans pas mal de choses que vous disiez tout à l'heure, j'ai l'impression que vous avez tellement besoin d'être rassurée.
Ah oui, ça, c'est vrai.
Et peut-être que le rôle d'un homme n'est pas forcément de jouer le père et d'être rassurant. En tout cas, lui, c'est
ouais,
pas.
Oui, c'est vrai que j'ai besoin d'être rassurée et il me rassure pas. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai ça. Vous avez touché complètement la cible, là, c'est là, c'est le mille. Ouais, c'est ça, j'ai besoin qu'il me rassure.
Mais non,
ouais, c'est
mais
vrai.
Là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'on ne peut pas demander aux autres de nous rassurer. C'est un travail qu'on doit faire soi-même. Parce que si vous cherchez systématiquement les autres pour vous rassurer, vous serez toujours malheureuse. Il faut arriver Oui.
Oh, excusez-moi. En fin de compte, dans mon travail, je joue un rôle. Donc, ce qui fait que je me sens vraiment sûre de moi. Mmh. J'ai peur de rien. Mais dans ma vie personnelle, effectivement, j'ai eu échec sur échec. J'ai eu des manipulateurs. J'ai eu des hommes qui physiquement m'ont broyé, on va dire. J'ai connu l'abandon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fin de compte, la peur de... Exactement ce que vous dites, Sabine. exactement.
Il y a plusieurs messages qui arrivent pour vous, Sandrine, notamment. Alors, il n'est pas signé, mais quelqu'un qui dit vous devriez continuer une psychothérapie et surtout vous dire que vous êtes tout à fait normale. Quelqu'un qui dit la pauvre, vaut mieux qu'elle reste seule qu'avec ce type-là. Voyez, vous êtes
normale. Oui, mais bon, il n'est pas méchant, je ne veux pas non plus le.
Non, ça n'a rien à voir, c'est juste, vous savez, c'est comme des chaussures et des pieds, c'est juste pas les bonnes chaussures pour vos pieds. Parce que vous n'êtes pas, pour l'instant, prête à ça. Il y a deux choses, il y a une blessure très très ouverte chez vous, ce manque de confiance vient de cette blessure-là qu'il faudra soigner.
Ouais.
Et puis vraiment, comme vous dites, dans le travail, vous avez un masque. Le masque de la confiance, de celle qui prend sa place. Et quand vous rentrez dans votre vie privée, il n'y a plus rien. C'est même pas une petite fille chez vous, c'est vraiment un animal sauvage blessé dans sa tanière.
Exactement ça, c'est un animal sauvage blessé. C'est un animal sauvage, je me considère comme un animal sauvage. Après, ce que je me suis dit, c'est qu'il aille moins vite, le fait de prendre le temps de m'apprivoiser. Parce que
non, mais
on ne peut pas m'apprivoiser comme ça.
Ça ne marchera pas forcément même avec le temps. Je pense qu'il faut vraiment que vous fassiez un travail sur vous. Apprenez aussi à vous aimer, Sandrine. Apprenez à devenir votre amie, à faire objectivement la liste de ce que vous avez fait de bien dans votre vie. Acceptez de ne pas être parfaite. Comprenez que chaque erreur est un apprentissage. Ne vous comparez pas aux autres et dites-vous tous les jours, je suis quelqu'un de bien, j'ai de la valeur. C'est déjà important tout ça.
La dernière chose, c'est ce qu'on m'a toujours dit de faire. Et puis voilà, de sourire devant ma bosse le matin en disant que voilà, ouais, c'est vrai.
Sandrine, il va falloir qu'on se quitte parce que j'ai beaucoup d'appels ce soir. Trouvez un bon thérapeute qui va vous aider à réparer tout ça, aller soigner cet animal sauvage et à l'apprivoiser pour lui permettre de sortir prendre l'air. Hein.
D'accord. Et je remercie également tous les commentaires. Je remercie.
Il y a Luc qui vient nous dire chercher à vivre.
Je cherchais à vivre, je vivais auparavant, j'avais l'impression de vivre.
Mais pour vivre vraiment, il faut vous libérer de tout ça. Reprenez votre thérapie, Sandrine, s'il vous plaît, vraiment.
D'accord.
Et donnez-moi de vos bonnes nouvelles dans quelques temps.
Je vous enverrai un mail comme j'ai pu le faire avant de vous avoir en ligne alors.
C'est gentil, je vous embrasse.
Je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde.
Merci
au revoir
beaucoup,
et merci.
Laissez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 au 39-21, 50 centimes la minute.
Et j'accueille maintenant Christiane. Bonsoir à vous, Christiane. Allô ? Allô, Christiane ? Ah, pas de Christiane ? Allô ? Problème de standard, on avait Christiane il y a une petite seconde. Christiane qui voulait nous parler de son frère qui a une grave maladie et d'une vie un peu compliquée, j'ai l'impression. Est-ce qu'on arrive à récupérer Christiane, là ? Non, pas de Christiane. Qu'est-ce qu'on fait, Fabrice ? Est-ce que j'ai quelqu'un d'autre en ligne ? Est-ce que Marie-Christine est prête ? Marie-Christine, vous êtes là ?
Là, oui.
Écoutez,
oui.
Je vous fais passer avant. Alors, bonsoir, Marie-Christine.
Bonsoir.
Bienvenue.
Oui.
Ça va ?
Est-ce qu'on vous a dit pourquoi
vous m'appeliez ?
Oui,
oui. J'ai vu passer une petite fiche disant que vous vouliez parler de la mort de votre mari et des sensations que vous avez depuis, des impressions, des choses comme ça.
Oui. Mon mari est décédé le 18 novembre et c'était, on va dire, inévitable, puisqu'il avait la maladie d'Alzheimer et qu'il était vraiment très mal.
Quel âge avait-il ?
93 ans.
Et vous étiez mariée depuis combien de temps ?
55 ans.
Waouh, belle.
Et moi, j'ai 72 ans.
Mm-hmm.
Et je m'attendais, bien sûr que je m'attendais à ce que ça arrive, parce que c'était inévitable, mais je pensais pas que ça me ferait autant de peine et de chagrin. Et surtout, tout le monde me disait, il faut que tu fasses ton deuil, ça va passer, mais ça passe pas. Parce que qu'est-ce que je peux dire ? Peut-être une sorte d'hallucination. Le matin, je crois qu'il est à côté de moi.
Mmh.
dans la journée, tout d'un coup, je suis en train de lui dire, tu veux que je te fasse ton petit café? Puis je me dis, mais ça va pas, là, il est plus là. Donc, j'ai du mal à me remettre dans la vie.
Oui.
Mais en même temps, j'ai envie de partir.
Mais Marie-Christine, ça, c'est très récent, il est parti en novembre, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui.
Et oui, c'est complètement normal.
Mais ça faisait 10 ans qu'il était Alzheimer et que je me suis occupée de lui, comme toujours d'ailleurs. Mais là, j'arrive pas.
Ben oui, mais c'est normal. Et vous vous rendez compte, plus de 50 ans de mariage? Et puis vous me disiez tout à l'heure, je m'y attendais, mais quand on sait que quelqu'un va partir, on s'y attend intellectuellement. Mais quand ça arrive,
on n'y croit pas.
Mais exactement, on a beau s'y attendre intellectuellement, émotionnellement, on n'est jamais prêt à ça, jamais.
Mais non, c'est même si on vous dit, si les médecins vous disent, ben oui, maintenant il y en a pour une semaine, puisque il pouvait plus être nourri, donc une semaine sans nourriture.
Non, bien sûr, vous le saviez, vous l'aviez compris intellectuellement, il n'empêche qu'en le vivant, le choc émotionnel est énorme.
C'est effrayant, effrayant parce que je le vois partout, je lui parle.
Alors là, on va aborder un sujet qui m'intéresse énormément. Il y a deux choses. La première chose, c'est que c'est aussi une manière de tenir debout. Le cerveau a besoin de ça aussi, quelquefois, quand on est dans cette phase. Vous êtes en début de processus de deuil. Vous savez, ça dure. On dit souvent qu'il faut 2 ans pour traverser les 7 étapes du deuil.
Moi, je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais.
Pourquoi?
Parce qu'on a vécu trop de choses ensemble et je ne pourrais pas faire comme s'il n'était plus là.
Mais faire son deuil, c'est absolument pas faire comme si la personne n'était pas là, hein, Marie-Christine. Faire son deuil, c'est arriver à transformer une pensée douloureuse en pensée douce et en accompagnement. Et donc là où je voulais en venir, c'est que au début, on peut avoir cette... Effectivement, vous n'êtes pas la seule, vous êtes très très nombreux, tous les gens qui sont en deuil vivent ça.
Je suis pas la seule dans cette situation-là. Hein.
L'envie de lui téléphoner, par exemple. J'ai beaucoup de gens qui me disent, je prends mon téléphone et je compose son numéro, et puis d'un seul coup, je me dis, mais non, il ou elle est partie. Vous voyez, des choses comme ça. Le fait de lui parler, mais si ça vous fait du bien, si vous avez cette impression-là, tant mieux. Et puis pour aller plus loin, il y a aussi des gens qui pensent, qu'est-ce que vous pensez, que la mort est une fin ou qu'il y a quelque chose après vous? Qu'est-ce que vous ressentez dans le fond de votre cœur?
Je ne sais pas, je pense qu'il est parti. Et je ne pense pas qu'on puisse se revoir un jour.
Oui, il y a beaucoup de gens qui pensent le contraire et qui ont des contacts
aussi
avec eux.
On m'a dit ça, oui, mais j'y crois pas trop.
Donc si vous...
On avait encore tellement de choses à faire. Ensemble, on a fait beaucoup de choses.
Ben, j'imagine, 50 ans,
c'était un homme, un chef d'entreprise formidable, même si on avait 20 ans d'écart.
20 ans d'écart, vous aviez?
Ben, j'ai 72 ans, il avait 93.
Oui, c'est ça, c'est vrai, j'ai pas percuté tout à l'heure. Vous aviez quel âge quand vous l'avez rencontré?
18 ans.
Ah oui, c'est une toute jeune fille.
Ben oui.
Vous avez eu des enfants?
On a 3 enfants, oui.
Et comment ils vont, ces enfants-là? Est-ce qu'ils sont là près de vous aujourd'hui? Est-ce qu'ils vous soutiennent?
Ben, ils sont pas là où j'habite, mais j'ai eu un coup de fil de mon fils aîné qui a eu 50 ans... il n'y a pas longtemps, et puis et deux autres filles, voilà. Mais...
Il y a un très joli message de Jade qui vous écoute et qui vous dit « Si on vit dans le cœur des autres, ça veut dire peut-être qu'on est réellement immortel. » Et votre mari continue à vivre dans votre cœur?
Ah, ça c'est sûr.
Et voilà.
Et jusqu'au dernier moment où il était encore conscient, enfin conscient, c'est une façon de parler parce que il était donc
avec Alzheimer, c'est plus vraiment une conscience.
Mais il me reconnaissait, il m'a reconnu jusqu'au dernier moment. Et il m'a dit une chose qui m'a fait pleurer. Il m'a dit, ma petite. Alors il m'appelait mon surnom, c'était. J'étais sa petite Minette.
Mmh.
Il m'a dit, ma petite Minette, alors il avait une voix un peu déformée, hein, ma petite Minette, tu seras toujours dans mon cœur.
Ben voilà.
Et je lui ai dit.
C'est précisément là où il est, oui.
Je lui ai dit, mais toi aussi, tu es toujours dans mon cœur.
Mmh.
Et puis après, ben, il ne pouvait plus parler. Et voilà, il est. Et donc là maintenant, c'est très difficile parce que j'ai plus envie de rien faire.
Est-ce que vous avez vu un thérapeute, quelqu'un pour vous aider un petit peu à surmonter
oui.
ça?
Oui, oui, j'ai un psy.
Oui.
Je vois tous les mois, que je vais voir la semaine prochaine.
Est-ce que vous arrivez à lui parler?
Oui.
Bon.
Oui, oui, j'arrive à lui parler. Mais il n'y a pas de miracle, hein, il n'y a pas de médicament pour oublier.
Non. Le deuil est quelque chose que, quoi qu'il arrive, on traverse seul.
Oui.
Parce que les autres ne peuvent
là,
pas faire grand-chose pour nous.
C'est vrai qu'en ce moment, bah, je n'ai plus... depuis ce moment-là, déjà depuis un petit moment, puisque ça fait 10 ans qu'il a cette qu'il avait... Je parle au présent, qu'il a cette maladie. Non, il avait
ouais.
cette maladie-là.
C'est déjà comme un premier deuil quand on est quelqu'un qui a Alzheimer.
Oui, oui, oui. Ah, oui, oui. Mmh. C'est moi qui ai découvert sa maladie parce que j'ai, à un moment donné, je constatais qu'il me posait une question, je lui répondais, et puis 2 minutes après, il me reposait la même question. Je lui dis, bah, je viens de te répondre. Et au bout de un mois, quand je constatais ça, je lui dis, ben, on va aller voir le médecin. Et puis.
Le diagnostic est tombé.
On lui a fait un hôpital spécialisé et avec des examens. Et puis, bon, ben voilà.
Le diagnostic est tombé. Ouais. Marie-Christine, je dois faire une courte pause, le temps des infos, si vous le permettez. Je vous récupère
oui.
juste après, d'accord?
D'accord.
Merci beaucoup. À tout de suite.
À tout à l'heure.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Vous écoutez Europe 1. Il est minuit. Et c'est Sophie Tussaud qu'on retrouve pour un nouveau point sur l'info. Bonsoir à vous Sophie.
Bonsoir Sabine, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, une cérémonie à Paris pour commémorer le génocide au Rwanda. Jordan Bardella veut sanctionner la politique d'Emmanuel Macron lors des européennes. Et puis le PSG devra encore attendre pour le titre.
Europe 1.
Il y a 25 ans, le début du génocide de Tutsi au Rwanda. Au moins 800 000 personnes ont été tuées entre avril et juillet 94. À Kigali, au Rwanda, des cérémonies ont eu lieu aujourd'hui en présence d'un représentant personnel d'Emmanuel Macron qui ne s'est pas rendu sur place. Emmanuel Macron qui souhaite que le 7 avril devienne une journée de commémoration. Il annonce également la mise en place d'une commission d'historiens afin de faire la lumière sur le rôle de la France dans cette tragédie. Et à Paris, une cérémonie s'est tenue cet après-midi au parc de Choisy en présence de Bruno Le Maire et de la chanteuse Barbara Hendricks, mais également de rescapés comme Alain. Il avait 15 ans lorsque plusieurs membres de sa famille ont été massacrés sous ses yeux. Il regrette qu'Emmanuel Macron ne se soit pas rendu à Kigali aujourd'hui.
C'est une occasion pour le président de la République de se rendre au Rwanda, justement, de marquer une rupture net avec ses prédécesseurs, puisqu'il a été invité par le Rwanda par ailleurs officiellement. Il n'y est pas allé et Macron, qui par ailleurs n'est pas lié à la polémique de l'implication de la France aux côtés du régime génocidaire, parce que lui était adolescent au moment des faits. Et donc je pense que vraiment il a raté une très bonne occasion pour marquer la rupture. En même temps, tout n'est pas néant, parce que je pense que c'est le premier président à poser autant de gestes, qui reste par ailleurs des petits pas quand même, mais qui donne espoir. Il vient de déclarer la journée du 7 avril, la journée nationale du souvenir du génocide des Tutsis. C'est quand même significatif. Donc oui, il y a des avancées, mais des petites avancées, il faut aller au-delà.
Alain rescapé du génocide rwandais au micro européen de Victor Dolande. Manger avant d'aller à l'école, c'est ce que va permettre le gouvernement aux enfants des quartiers défavorisés. Des petits déjeuners gratuits seront testés dans 8 académies à compter du 17 avril, avant d'être généralisés en septembre. Autre mesure, la cantine à 1 euro d'ici à la fin du mois. C'est ce lundi que commence la synthèse du grand débat. Édouard Philippe fera une restitution des apports et des contributions. Emmanuel Macron annoncera les premières décisions mi-avril, soit un peu plus d'un mois et demi avant les élections européennes. Un scrutin qui, pour Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national, pourrait être un moyen de mettre un terme à la politique d'Emmanuel Macron.
C'est évidemment un enjeu majeur pour l'Europe. À l'heure où l'Union européenne est incapable de protéger les Français et à l'heure où de plus en plus de peuples partout en Europe sont en train de se lever pour dire nous voulons être entendus, nous voulons être respectés et nous voulons récupérer le pouvoir. Maintenant, cette élection, c'est la première élection depuis l'arrivée d'En Marche à la tête du pays. Et je l'assume, je pense que ça doit être un référendum sur la politique qui est conduite par Macron. Si les Français sont satisfaits de la politique que mène Emmanuel Macron, de matraquage fiscal, d'injustice toujours plus importante à l'égard de nos compatriotes, eh bien, qu'ils aillent voter pour la liste de La République En Marche, et s'ils souhaitent une autre offre politique, s'ils souhaitent mettre fin aux injustices qui sont celles de la politique d'Emmanuel Macron, eh bien, qu'ils aillent voter massivement pour la seule liste capable de lui mettre un carton rouge et d'arriver en tête, à savoir la liste du Rassemblement National.
Jordan Bardella, invité du Grand Rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Le Sidaction, un bilan en hausse pour la 25e édition de l'opération caritative. 4,5 millions d'euros de promesses de dons ont été récoltées durant le week-end. Il n'était qu'à une victoire du titre, mais c'est partie remise pour le PSG. En faisant match nul, 2-2 ce soir, les Parisiens voient leur sacre retardé. Éric-Maxime Choupo-Moting a été l'homme du match pour le meilleur et pour le pire. C'est lui qui a marqué, c'est lui aussi qui arrête le ballon sur la ligne de but qui aurait pu offrir à Paris son titre.
On n'a pas trop pensé au titre, mais chaque match à la maison, on veut gagner, bien sûr. Et c'est dommage qu'on n'a pas gagné ce match, bien sûr.
Un mot sur qu'est-ce qui s'est passé tout simplement là, sur ce ballon que vous sauvez sur la ligne on...
Même moi, jusqu'à maintenant, je ne comprends pas tout à fait. Je suis désolé parce que le ballon, en fait, entrait, je crois. Et c'est dommage parce que ça serait le but d'un coucou. En fait, la situation, au début, je pensais peut-être qu'il va me donner la balle pour que je la mette direct. Puis il a tiré, je crois que le gardien il a un peu touché la balle. Et moi, je pensais que le défenseur va peut-être prendre le ballon. Moi, j'ai hésité de prendre le ballon et j'ai hésité de mettre. Mais je me suis dit, oh, peut-être je suis OG et je ne veux pas voler le but normalement. Mais mon réflexe, malheureusement, a fait ça et... Malheureusement, sur la ligne, il touche le poteau et ça n'entre pas. C'est dommage, c'est le foot, mais bon.
Éric-Maxime Choupo-Moting au micro Europe 1 de Julien Froment. Et un nul suffira aux Parisiens dimanche prochain à Lille pour conserver leur couronne nationale. Autre résultat de cette 31e journée de Ligue 1, Reims-Lille, 1-0. Toulouse bat Nantes 1-0. 1-0 également pour Nice face à Montpellier. La météo. Le thermomètre ne va pas grimper, mais ce sera mieux du côté du ciel, Valérie Darmon.
Léger mieux, effectivement, pour la couleur du temps et des températures du même ordre que ce dimanche. Le matin, il fera donc entre 4 et 8 degrés en moyenne, avec localement quelques gelées blanches dans les vallées d'Auvergne. Dans l'après-midi, les maximales afficheront 13 degrés sur le Finistère et le Jura, 14 à 18 ailleurs, avec des pointes à 20 degrés près de la Méditerranée. On se situera dans les moyennes de saison. Côté ciel, temps variable, alternant éclaircies et averses, parfois orageuses. Dans le détail, ça nous donne pour ce lundi beaucoup de nuages bas, donc tapis nuageux épais, sur la façade ouest de la France. Nuages épais et ondés cette fois, même tendance à l'orage sur la partie est, entre les Ardennes et l'Alsace. Et puis entre les deux, belle alternance de nuages et d'éclaircies et un temps sec.
Merci Valérie Darmon, vous êtes sur Europe 1, il est minuit passé de 6 minutes, c'est la suite de la Libre Antenne avec Sabine Marin.
Europe 1, 23h, 1h, la Libre Antenne, Sabine Marin.
passer ensemble au cœur de la nuit sur cette libre antenne. N'hésitez pas à continuer à nous appeler pour prendre la parole tout au long de l'émission. Vous faites 39-21, Amandine et Hassan sont prêts à vous accueillir au standard et à vous accompagner jusqu'à moi. Je vous rappelle que pour participer à l'émission par SMS, c'est facile, vous faites le 7-39-21 en commençant par le mot « nuit ». Vous pouvez également nous joindre par mail à l'adresse suivante libreantenne en un seul mot @europe1.fr.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Marie-Christine, vous êtes là ?
Je suis toujours là, oui.
Oui, vous me disiez qu'après plus de 40 ans de mariage, en fait, votre mari a été diagnostiqué Alzheimer.
Oui.
Est-ce que son état s'est dégradé rapidement ou est-ce que ça a été lent ? Est-ce qu'il a eu le temps quand même ?
Ça a été assez lent quand même, parce que ça a été diagnostiqué pendant 10 ans à peu près. Mmh. Mais ça dégringole très vite.
Vous me disiez quand même qu'il vous reconnaissait, il vous a toujours reconnu ?
Oui.
Ça, c'est extraordinaire. Hein.
Il m'a toujours reconnu quand j'allais voir à l'hôpital. Comme je vous disais tout à l'heure, il m'appelait sa petite Minette. Et puis, bon, ben je l'embrassais, je le caressais. Et il m'a dit, tu es dans mon cœur.
Il y a eu beaucoup d'amour entre vous.
Oui.
Vous avez
eu
beaucoup...
Et puis, ben, vers la fin, c'était la fin, quoi. Il est mort dans mes bras.
Est-ce que vous avez eu le temps de lui dire tout ce que vous vouliez lui dire ?
Oui.
Oui, c'est important ça.
Oui. Mm. Vraiment, on était très très proches. Et c'est difficile maintenant, c'est pour ça que c'est très difficile. Je suis comme on dit avec un mot très savant, en état de proscrastination. Ça veut dire que je remets toujours au lendemain ce que je pourrais faire le jour même.
Ben oui, bien sûr.
Et que ben, bien souvent, j'ai envie de partir.
Oui. C'est fréquent, alors, vous savez, quand on a été pendant longtemps avec quelqu'un qu'on a aimé et qui s'en va, on se demande un peu quel est le but de la vie, quoi.
Oui, voilà. Donc, plus envie de faire grand chose, quoi.
Et pourtant, s'il était là et qu'il vous tenait la main, qu'est-ce qu'il vous dirait ?
On est bien ensemble.
Et il vous dirait pas, ma petite Minette, je veux que tu vives et que tu sois heureuse ?
Ben oui.
Et oui. Marie-Christine, il y a plein de messages de sympathie qui arrivent pour vous par SMS. Il y a Libellule qui nous dit « Je vous envoie toute ma sympathie ». Un demi-siècle, il y a beaucoup de couples qui ne durent pas autant que ça. Bravo à vous.
Peut-être. Oui, sûrement.
Il y a Laurence qui dit « Ceux qui partent voient la lumière et je suis sûre que de là-haut, votre mari vous voit et voudrait vous voir heureuse. »
J'y crois pas trop, là.
Annie qui vous dit « Marie-Christine, je pense que l'on ne meurt vraiment que lorsque plus personne ne pense à nous. Continuer à penser à lui, c'est continuer à le faire vivre. »
Oui, peut-être. Oui, ça, c'est une bonne chose, oui.
Et quelqu'un qui nous
mais
dit...
Mais moi, par moment, vous savez, j'habite dans une ville où il y a la Loire qui passe. Donc, il y a des moments où je me dis, bon...
Et vous avez les idées
très
plongées. Ouais. Mais vous en parlez avec votre thérapeute de ça ?
Oui.
Qu'est-ce qu'elle vous dit ? Ou il vous dit, je sais
pas. C'est un homme.
Qu'est-ce qu'il vous dit, alors ?
Que c'est pas la bonne solution.
Oui, et que c'est tout à fait... Vous êtes exactement dans la phase la plus douloureuse du deuil. C'est l'étape du désespoir.
Probablement, oui. Oui, peut-être que... J'ai pas l'impression que ça changera, mais peut-être qu'effectivement, au
ça
bout
changera.
D'un certain temps...
Ça changera, Marie-Christine, parce que l'homme est ainsi fait. L'être humain est ainsi fait. Quand on est au cœur d'une douleur comme ça, on a l'impression que ça s'arrêtera jamais.
Mais oui, c'est ce que je pense.
Mais ça s'arrête. Croyez-en tous les gens qui ont vécu des deuils extrêmement violents.
Mais oui, je suis pas la, je suis pas l'unique personne dans cette situation-là. Je sais très bien qu'il y a des gens qui souffrent.
Non, ce que je veux dire
du décès.
Ce que je veux dire, c'est qu'on le fait le deuil, quoi qu'il arrive, on le fait. Ça prend le temps que ça prend, mais les
étapes
suffisent.
Pour l'instant, je n'ai pas l'impression que j'y arriverai.
Ben, c'est normal, pour parce l'instant. Que vous êtes dans la phase la plus douloureuse, la plus difficile. Mais c'est comme une plaie, elle finit toujours par se refermer, par cicatriser. Ça laisse des marques, ça laisse des traces, on n'oublie jamais.
Oui, mais on ne peut pas oublier.
Mais personne ne demande d'oublier, le deuil n'est pas un oubli, surtout pas. Le deuil est simplement un apaisement. On arrive à vivre avec un souvenir apaisé. Est-ce que vous avez fait quelque chose... Moi, je parle souvent, quand quelqu'un est en deuil, de faire un geste symbolique. Est-ce que vous avez fait ça, comme peut-être aller planter un arbre pour lui? Ou aller faire quelque chose de particulier? Faire un geste symbolique
non.
d'amour et de au revoir, d'au revoir?
Non, j'ai pas fait ça. C'était... Il y a eu une crémation, c'est effrayant.
Ça, c'est terrible, c'est une violence. On en parlait il n'y a pas longtemps,
j'ai fait, c'est une violence. J'ai fait un... Quand il y a eu... C'est horrible.
Ouais.
Mais bon, on m'a donné la parole. Et les premiers mots qui me sont venus, je dis, Bernard, mon amour, je t'aime. Et puis, j'ai fait quelques mots comme ça. Je ne t'oublierai jamais.
Mm-hmm.
Mais bon, la crémation a eu lieu, mais j'ai pas voulu aller au cimetière pour quand l'urne a été mise dans le caveau familial, j'ai pas voulu aller voir ça.
C'est trop dur.
C'était trop dur.
Mais de toute façon, là, je vais vous dire que l'on croit ou pas à un au-delà. De toute façon, la personne, elle n'est plus là. Elle n'est pas dans l'urne, la personne. Quoi qu'il arrive, elle est dans votre cœur, mais elle n'est plus dans l'urne.
Oui,
parce que quelquefois, les gens se culpabilisent et souvent la crémation est vécue de façon très violente. Parce
Oui, c'est très difficile.
On ne nous prépare pas à un moment pareil, c'est très dur parce une crémation.
C'est une cérémonie épouvantable.
Oui.
Mais non, moi... que je vis en ce moment, c'est que par moments, je crois qu'il est là. J'entends sa voix. Je parle tout haut. Je lui parle tout haut en pensant qu'il m'a entendu.
Et puis
je me rends compte que c'est pas possible. Alors, je suis un petit peu dingo, sans doute, peut-être, je sais pas.
Mais moi, je crois pas, non. Non, non. Quand quelqu'un nous manque très fort, vous savez, on est tous pareils, hein. Si ça je pense que c'est aussi une défense de votre esprit, de votre cœur, pour tenir debout, continuer à maintenir ce lien avec lui. Peu importe, après tout, qu'il soit imaginaire ou réel, que cette voix soit imaginaire ou réelle, si elle vous accompagne et qu'elle vous fait du bien, après tout. Les gens qui croient à un au-delà vous diront c'est réel, il est vraiment là, il est vraiment avec vous. Les gens qui n'y croient pas vous diront c'est imaginaire, et peu importe.
Non, il est avec moi.
Eh bien alors, vous voyez.
Mais oui, mais je le vois pas.
Si vous savez.
Et puis je.
Alors Marie-Christine,
c'est toute une vie qui s'arrête.
Oui, mais vous avez aussi la chance d'avoir vécu 50 ans d'amour fou.
Oui. Parce que vraiment, on a fait tellement de choses, tellement de voyages, tellement de. Il était directeur de société. Très bon directeur de société, formidable, vraiment. Et puis, on s'est aimé.
Et vous voyez, Marie-Christine, quand vous me dites je l'entends, mais je ne le vois pas, est-ce que l'amour est quelque chose qui se voit?
Non, mais non, bien sûr, ce sont des sentiments.
Ben voilà.
Mais j'aimais bien quand il me prenait dans ses bras.
Bien sûr, mais là, c'est un autre lien qui est en train de se forger maintenant. Un autre rapport qui est dans votre cœur. Il y a de très très nombreux messages de soutien qui continuent à arriver. Quelqu'un qui nous dit « Marie-Christine et sa belle voix posée est très émouvante. Je vis presque la même situation avec un mari beaucoup plus âgé et atteint d'une maladie dégénérative.
Ah oui.
Quand on a des enfants et des petits-enfants, celui qui est parti continue à être aimé et vivre à travers eux. » Quelqu'un qui vous dit « J'ai perdu mon papa adoré, nous avons eu la chance de nous dire notre amour avant son départ et c'est un grand privilège. Après tellement de désespoir, j'ai la sensation d'avoir enfin apprivoisé un animal sauvage et je suis apaisée maintenant. »
Je sais bien qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des situations...
Oui, mais ça ne nous console pas quand on va mal, tout ça, c'est vrai.
Non, mais je suis consciente du fait que je suis pas la seule dans. C'est pas.
Mais vous avez l'impression que vous n'en sortirez pas, c'est ça. Mais je vous assure, Marie-Christine, que c'est vraiment une impression. Et quand on est au cœur de la souffrance, on se dit le tunnel sera sans fin, mais il y a une fin. Il y a une fin. On finit par vivre avec.
Oui, il faudra.
Et une fois de plus, dites-vous, chaque jour, posez-vous la question, s'il était là et qu'il me tenait la main, qu'est-ce qu'il me dirait? Moi, je suis sûre qu'il aurait envie que vous soyez heureuse et que vous viviez pour lui.
Vous avez certainement raison.
Le temps qui vous reste à vivre, que vous en profitiez, que la vie soit douce pour vous. Il n'aurait pas envie de vous savoir malheureuse comme
pense
ça.
Pas à la je pense pas à la douceur de la vie, en ce moment.
Bien sûr, bien évidemment. Mais lui, je suis sûre que c'est ce qu'il aimerait pour vous. Il n'aimerait pas vous voir aussi malheureuse.
Oui, mais je comprends.
Si c'est vous qui étiez parti, vous auriez aimé qu'il soit désespéré et qu'il ait plus envie de vivre après votre départ, ou vous auriez aimé qu'il soit bien, au moins capable de continuer.
J'aurais préféré qu'il soit pas trop mal.
Et ben voilà. Et je vous parlais tout à l'heure d'actes symboliques, ça peut peut-être vous faire du bien. Soit vous mettre peut-être à écrire un livre pour lui, comme si vous lui écriviez tous les jours. Soit aller planter, je ne sais pas ce qu'il aimait, quelque chose qu'il aimait particulièrement. Vous pourriez aussi lui écrire une lettre et l'enterrer. Planter un arbre, avoir une fleur, quelque chose.
Je peux vous assurer que mon agenda de l'année dernière, il ne pèse pas une tonne, mais presque. Mais celui de cette année, il n'y a plus rien.
Qu'est-ce que vous entendez par votre agenda, c'est-à-dire ce que vous aviez à faire chaque jour?
L'année dernière, je notais chaque jour tout ce qui se passait. Mm-hmm.
Mais vous notiez vous notiez comme si vous lui écriviez à lui, ou vous notiez ça pour vous?
Pour moi, pour savoir exactement ce qui se passait, mais je lui écrivais des lettres aussi, mm-hmm. des petits mots. Et puis là, cette année, l'agenda 2019, pour l'instant, il n'est pas très rempli, quoi.
Peut-être que vous pourriez lui écrire.
Pas rempli.
Peut-être que vous pourriez lui écrire un petit mot, aller l'enterrer et planter un arbre sur ce petit mot.
Ah là là, j'avais pas pensé à ça.
Les gestes symboliques nous font beaucoup de bien.
Oui.
Quelque chose qui soit un petit peu entre lui et vous, un moment d'intimité comme ça.
Oui, mais j'ai bien l'intention d'aller au cimetière seule. Et puis si vous dites que je peux faire ce geste-là, j'avais pas pensé. Mais
c'est quelque chose que je conseille très souvent aux gens qui sont en deuil. Le geste symbolique est vraiment quelque chose qui nous fait du bien.
Oui. Alors, je vais dire... Pour terminer, peut-être quand même, parce que vous avez sans doute d'autres personnes qui attendent, que je suis désolée d'exprimer tous ces sentiments-là, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ces douleurs. Et j'ai l'impression de m'étaler un petit peu.
Alors, bien au contraire, Marie-Christine, non seulement vous n'avez pas à vous excuser, que d'abord on est là pour ça, sur cette libre antenne, et ensuite, croyez-moi, depuis que vous avez commencé à prendre la parole, il y a plein de messages très touchants qui arrivent pour vous. Plein de gens qui comprennent, qui compatissent, et vous savez, on se sent tellement seul dans le deuil qu'entendre quelqu'un d'autre en parler, ça ouvre un peu une petite fenêtre, on se dit « je suis pas le seul » ou « je ne suis pas la seule à vivre ça ».
Je remercie toutes les personnes qui ont envoyé des messages, parce que Ça me fait un petit peu chaud au cœur, quoi.
Bien sûr, bien sûr.
Parce que ce ne sont pas des phrases qui racontent une histoire banale. Et il y a des sentiments. Il y a de l'amour.
Il y a plein d'amour dans votre histoire. Et c'est ça qu'il faut garder.
Oui.
Comme un cadeau précieux que la vie vous a offert.
C'est ce que j'arrête pas de me dire dans ma tête.
Oui.
Mais sa présence me manque.
Bien évidemment, c'est normal.
Mais vous pouvez... même si c'était prévu, malheureusement.
Vous pouvez aussi dire merci à la vie d'avoir rencontré, d'avoir vécu plus de 50 belles années avec lui.
Oui.
D'avoir eu cette chance d'avoir un parcours exceptionnel.
Oui,
peut-être rien que pour ça, vous pourriez vous dire que ça vaut le coup quand même de continuer à vivre pour ça.
Oui. Oui, vous avez raison, parce que...
Pour lui rendre hommage.
On a eu beaucoup d'amour, quoi, beaucoup de chance, beaucoup de... Vraiment, une vie incroyable.
Ça, c'est merveilleux. Vous avez des enfants, il faut y penser aussi.
Oui.
Et
des petits-enfants aussi.
Pensez à ce geste symbolique que vous pourriez faire et qui vous ferait du bien.
Oui. Alors ça, je ne savais pas. Mais je vais le faire. Je vais le faire.
Et puis vraiment, dites-vous chaque matin, qu'est-ce qu'il voudrait lui aujourd'hui ?
Qu'est-ce qu'il voudrait ? Mais le matin, quand je me réveille, enfin quand je peux dormir encore un peu la nuit, si je m'endors le matin, je me réveille et puis j'ai l'impression qu'il est là. Je me dis, non, c'est pas possible, il n'est pas parti. Donc, pour l'instant, c'est comme ça.
Exactement, comme vous dites, pour l'instant, c'est que ça va changer. Ça fait partie des étapes du deuil, c'est ce qu'on appelle le déni. On se réveille en disant, non, c'est pas possible, c'est un cauchemar. Il faut quelques minutes pour revenir à la réalité, et elle est tellement douloureuse qu'on a juste envie de se rendormir ou ne plus se réveiller.
Oui, c'est exactement ça.
Mais on passe tous par là, Marie-Christine. Et je vous garantis du fond du cœur que ça passe. On n'oublie jamais, on finit par vivre avec un souvenir qui était douloureux devient un souvenir apaisé. Une présence qui était comme un manque devient une présence accompagnante. Oui. Il sera toujours dans votre cœur, vous pourrez toujours lui parler.
Ben oui, parce que ça fait pas très longtemps qu'il est parti, donc...
C'est pour ça que je vous disais, tout ça est très frais, tout ça est encore extrêmement sensible et douloureux. Mais petit à petit, on cicatrise de tout parce que l'être humain est ainsi fait.
Oui.
Laissez-vous du temps.
Je veux bien croire.
Est-ce que je peux me permettre de vous prendre dans mes bras ?
Bien sûr.
De vous envoyer un peu de lumière et de vous embrasser très fort.
Oui, merci beaucoup. Ça me fera du bien.
Merci de votre appel, Marie-Christine.
Oui.
Je vous embrasse très fort.
Et puis merci à toutes les personnes qui ont laissé des messages.
Elles vous écoutent. Et si vous le permettez, restez à l'écoute. Je vais vous dédier un petit texte que je vais lire juste maintenant, d'accord ?
D'accord.
Je lis pour vous, Marie-Christine, et pour tous ceux qui sont en deuil.
Oui.
J'ai oublié en parlant de lui que mes lèvres pouvaient sourire. Mes larmes ont concurrencé les gouttes de pluie et ont anéanti tous mes rires. J'ai cherché à me souvenir de ces bons moments passés ensemble, mais quand je pense à lui, c'est tout mon corps qui tremble. Une éclipse m'a plongé dans le noir depuis que je ne peux plus le voir. Mais bizarrement, mes yeux voient quelque chose briller. Et étrangement, ce soir, une étoile semble m'éclairer. Je sais que c'est lui, je sens que c'est lui. Il fait comme quand il était là, me pince pour me rappeler que je suis en vie. Parce que depuis son départ, je survis. Mon château de cartes s'est écroulé. Au vent de la tristesse n'a pas résisté. À la tempête de l'injustice s'est envolé. À la tornade de la colère s'est volatilisé. Au cyclone de la culpabilité s'est effondré. Et si j'avais fait ça, et si j'avais dit ça ? Autant de si qui m'accablent, autant de pensées qui me rendent coupable. Pourtant, son âme a choisi que son voyage s'arrêtait ici. Il est rentré à la maison après ce mémorable circuit qui lui a fait rencontrer des personnes extraordinaires. Et qui lui a fait croiser ma vie. Que dois-je faire pour honorer sa mémoire ? Me noyer dans le désespoir ? Ou le rendre fier de ce que je vais continuer à faire sur Terre ? Si les rôles étaient inversés ? Si c'était lui qui était resté ? Je souhaiterais le voir heureux parce que je l'aime. Alors pourquoi ne pas être heureuse pour lui ? Parce qu'il m'aime. Je me souviens de sa tenue préférée, je sais qu'il continue à la porter. Même s'il est invisible désormais, ça lui permet de rester à mes côtés. Parfois je sens son parfum, je reconnais ça par cœur. Je sais qu'il s'assoit dans un coin du salon pour regarder avec moi l'émission que nous regardions ensemble. Il a l'avantage de savoir comment ça finit, mais il ne me l'a pas dit. Il me laisse la surprise. Il est là pour toujours avec ses rires, ses défauts, ses discours. Il continuera à me faire sourire quand je repenserai à nos délires. Il continuera à me faire rougir quand je le tendrai à nouveau me dire que je suis la plus belle. Même si cette voix résonne seulement à l'intérieur de moi, il continuera à me faire languir quand je lui demanderai un signe pour mieux dormir. Pour savoir qu'il va bien quand il m'en donnera un. Que ce soit une lumière, une musique, un mot, je serais soulagée de savoir qu'il s'amuse là-haut. En même temps, je comprends qu'il l'ait rappelé. Il avait de si belles choses à partager. Il le fait maintenant avec le reste de l'humanité. Il fera partie pour toujours de ma vie. Et si son corps est devenu poussière, si ses cendres se sont mêlées à la terre, son âme est éternelle, et son amour me donne des ailes. Skinny Love, c'était Birdie. Et c'est maintenant Christiane que j'accueille. Bonsoir Christiane.
Bonsoir Sabine, bonsoir.
Je vous avais perdu tout à l'heure, mais on vous a rattrapé, c'est bon.
Oui, d'accord, merci. Là, je suis contente de vous parler. Sabine, bonsoir.
Bonsoir.
Écoutez, je vais faire un court intermède sur la dame qui vient de parler. Je suis très émue parce que moi aussi, j'ai perdu mon mari il y a 12 ans.
Oui.
Et on avait 45 ans de mariage. Et si vous voulez, moi, à l'intérieur de moi, il est en moi. C'est-à-dire qu'il vit en moi, il est dans mon cœur et je le ressens.
Oui, voilà. Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait.
Oui.
Et vous aussi, vous avez une belle histoire. 45 ans, dis donc, c'est pas rien.
Oui, 45 ans de mariage. Oui. Mais je le ressens en moi, vous savez, dans mon cœur, il est là. Il est là.
Et
voilà.
Oui.
Sabine, le motif de mon appel n'a pas de rapport avec ça, mais enfin, ça fait partie de ma famille, malgré tout.
Oui.
Voilà. J'ai mon frère qui est atteint d'une grave maladie osseuse avec insuffisance rénale. Il a été hospitalisé pendant 4 mois et il rentre mardi. Et bien entendu, avec ma sœur, on a mis en route des services pour lui apporter les repas à domicile, pour l'infirmière, enfin une aide ménagère. Mais seulement, si vous voulez, j'ai peur parce que il n'entend pas toujours quand on sonne, parce que avec l'insuffisance rénale, Samy, il est obligé de faire pendant encore très très longtemps des dialyses.
Oui.
Et je crains qu'avec quand l'ambulance sonnera, il n'entende pas toujours la sonnette parce qu'il met son téléviseur très fort et il est un peu sourd, vous voyez.
Mmh.
Enfin, même beaucoup, hein, disons. Voilà. Alors, ce que j'ai peur, Sabine, c'est que au niveau de son cancer de la moelle osseuse, ça fragilise ses os, qu'il fasse une chute pendant mon absence. Parce que moi, si vous voulez, Sabine, je ne pourrai pas être là 24 heures sur 24. Je vais souvent, très souvent, passer chez lui avec ma sœur. Moi, j'habite à 4 kilomètres. Ma sœur habite à 4-500 mètres. De là. Mais si, vous voyez, moi, ma sœur, elle fait une dépression nerveuse. Elle est devenue extrêmement agressive envers moi, envers son entourage, envers une autre de mes sœurs. Et si vous voulez, pour elle, je n'ai pas le droit d'être différente. Je n'ai pas le droit d'avoir mon avis personnel. Et elle est très directive, très, très dure. Dans sa vision des choses. D'ailleurs, mon frère, elle voulait le mettre en maison de retraite. Mais si vous voulez, mon frère, elle n'a que 70 ans. Et d'ailleurs, il ne veut pas y aller. L'assistante sociale m'a dit, on ne peut pas l'obliger.
Mmh.
Et moi, j'en avais pas du tout envie. Donc, je vais faire le maximum. Mais moi, je suis âgée aussi. J'ai 77 ans. Et si vous voulez... et je n'ai pas voulu encore me faire opérer d'un genou parce que je voulais aller lui rendre visite pendant les 4 mois où il était hospitalisé. Si vous voulez, il habite un troisième sans ascenseur.
Hein. Bon, ah oui, ça c'est peut-être pas très adapté. Hein.
Oui, c'est ça. Oui. Donc, si vous voulez, j'ai peur de ma sœur parce qu'elle est très dure envers moi. J'ai peur que mon frère... et un problème la nuit quand je ne serai pas là. J'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Puis si vous voulez, vous savez, il était très 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 indépendant avant son hospitalisation. Et maintenant, de lui dire bon, il faut te laver, il faut faire ta toilette, il faut manger, il faut accepter les repas à domicile. Pour lui, ça va être très dur. Et je me fais énormément de soucis. Vous voyez, j'ai peur, parce que ce ne sera pas possible que je sois 24 heures sur 24. Là.
Et non, et surtout, Christiane, ce n'est pas votre rôle.
Oui, c'est ça, oui.
Vous êtes en train de prendre beaucoup de choses sur le dos. Alors, juste pour parler concrètement de deux choses, en ce qui concerne votre peur pour la sonnette, je ne suis pas une spécialiste en électronique, mais il me semble bien qu'il existe des systèmes avec une lumière.
Ah oui, 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 d'accord.
Et vous devez pouvoir trouver quelqu'un qui installe ça, ou au moment où ça sonne, ça peut faire aussi une puissante lumière dans sa chambre ou dans le salon, dans la pièce où il est le plus souvent.
Ah oui, très bien, oui, oui, d'accord.
Je pense qu'il existe des systèmes comme ça qui peuvent permettre d'alerter que quelqu'un sonne de manière visuelle.
Oui, ça,
c'est
ça, petit
1. Petit 2, c'est pareil, je ne suis pas spécialiste de ça, mais je pense que les gens qui ne sont pas en état de rester seuls chez eux ont droit d'avoir quelqu'un jour et nuit. Il existe des assistantes qui sont là, qui prennent le relais. Il y a une personne qui vient la nuit, une personne qui vient la journée.
Mais vous savez, mon frère, il n'a que 1 300 € de retraite. Et j'ai une amie qui a eu son mari de malade. C'était 800 à 900 euros pour rémunérer, en fait, cette personne. C'est très, très cher.
C'est pas pris en charge du tout? C'est pas remboursé?
Oh, sûrement. Sûrement, oui, sûrement qu'il y a une prise en charge. Sûrement, oh oui. Là-dessus, je vais me renseigner. Déjà, mais vraiment, j'ai eu... Ouais. Pardon.
Non, renseignez-vous là-dessus. Sinon, je pense à autre chose qui fonctionne plutôt bien aussi. S'il a un tout petit peu de place chez lui, ne serait-ce qu'une chambre, c'est le partage avec des étudiants qui, en échange d'une chambre, peuvent rendre le service de surveiller quelqu'un la nuit, par exemple.
Oui, oui. Ah oui, d'accord. Il a un studio, c'est-à-dire c'est un F1, qu'on appelle ça ici dans ma région. Et tout est aménagé dans son salon, sa télévision, son lit, et il n'a pas de chambre supplémentaire.
Ah, lui, il n'est que dans un studio, oui, donc ça, c'est un peu plus
compliqué. Oui, le studio, c'est un F1, on appelle ça. Oui.
Donc, effectivement, héberger quelqu'un, lui, est difficile, mais renseignez-vous sur les aides un petit peu plus présentes que ça, parce que de toute manière, ça n'est pas votre rôle, vous ne pourrez pas le tenir à ce rythme-là. C'est pas possible.
Oui, c'est gentil. Oui, d'accord.
J'entends bien que pour vous, déjà, il y a plusieurs choses à comprendre quand on a quelqu'un de proche qui est malade, et je comprends bien qu'on est plein d'amour, et vous êtes plein d'amour pour votre frère.
Oui,
pleine de peur aussi, mais simplement il faut quand même vous dire que faites de votre mieux, mais ne vous demandez pas l'impossible.
D'accord, hein. Oui, c'est gentil.
Restez dans un rôle réaliste. Vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui se passe,
non,
ni être responsable de ce qui se passe, ni faire tous les choix vous-même.
Parce que Sabine, vous savez, j'ai une sœur qui est très dure, je vais pas m'étaler longtemps, mais je vais vous dire sincèrement, du fond du cœur, du fond de mon âme, que lorsque j'ai un avis différent, parce que je voulais pas le mettre en maison de retraite, eh bien, elle m'a dit oui, elle aime pas être contrariée, elle aime pas être contredite, j'ai pas le droit d'avoir un avis différent du sien. Et elle me dit oui, s'il m'arrive quelque chose, ce sera de ta faute.
Oui, c'est quelqu'un qui m'a l'air bien manipulatrice. Hein. Pourquoi elle est comme ça, votre sœur?
Ben, écoutez, je ne sais pas du tout. Il y a quand même 3-4 ans, mon frère n'était pas encore malade. Elle avait pris beaucoup, beaucoup de cachets pour moi. Enfin, elle m'a dit qu'elle était, il y a 4-5 jours, elle m'a dit qu'elle était malade. Seulement maintenant, elle vient seulement de me le dire. Mais il y a 3-4 ans, elle avait pris des cachets, elle a été hospitalisée. Et puis.
Attendez que les choses soient claires. Oui, elle avait pris des cachets, c'est-à-dire elle a voulu se suicider?
Oui.
Oui, donc elle est en souffrance aussi, cette femme.
Oui.
Elle
a fait le même scénario à une de mes sœurs à qui elle ne parle pas depuis 10 ans. Et ma sœur ne lui a rien fait de grave, rien. C'est des choses banales, terre à terre. Et vous savez, quand je lui dis, par exemple, que j'ai un avis contraire, parce qu'elle est très directive, très autoritaire, et puis que je lui dis... par exemple, mon avis, moi, non, je ne peux pas le mettre en maison de retraite, je vais faire un essai chez lui. Eh bien, elle me dit, tu veux qu'on coupe les ponts? Tu veux qu'on coupe les ponts?
Oui, mais une fois de plus, hein, c'est un comportement qui révèle quelqu'un qui est en souffrance, qui va mal. C'est pas vous le problème, c'est elle. C'est elle.
Oui, c'est elle. Oui.
Et une fois de plus, c'est ce que je dis souvent, son comportement, c'est que ça lui appartient, c'est pas à vous.
Oui, merci de me rassurer.
Mais c'est vrai. La manière dont elle se comporte et ce qu'elle vous dit, ça lui appartient à elle.
Ça me fait très mal.
Parce que vous le prenez comme quelque chose dont vous êtes responsable.
Oui.
Vous n'êtes pas responsable de ça, ça lui appartient à elle. Je ne sais pas pourquoi elle est comme ça, ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'elle soit en souffrance et que donc elle agresse les autres.
Oui.
Mais c'est pas vous le problème, c'est elle.
Elle dit qu'elle n'a pas fait le deuil de sa maman qui est morte depuis 40 ans. Et moi, ma maman, j'adorais maman, mes sœurs aussi, mais n'ont pas le même comportement que ma sœur. Hein. Si vous voulez, au bout de 40 ans, elle dit qu'elle pleure encore quand elle va au cimetière. Bon, moi, ma maman, elle est dans mon cœur aussi, mais moi, j'ai pas la même attitude. Moi, je ne comprends pas qu'elle soit agressive comme ça, alors qu'on ne peut rien me reprocher. Si vous voulez, dans mon moi intérieur, dans mon ressenti, je ne ressens aucun grief contre elle, sauf quand elle me culpabilise, elle arrive à me culpabiliser.
Mais oui, parce que une fois de plus, ne prenez pas ça, ça ne vous appartient pas. Elle va vous culpabiliser d'accord. Tant que vous le prendrez pour vous.
Ah oui,
vous savez, c'est éternellement, c'est vous laissez l'autre avancer jusqu'à ce que vous l'empêchiez d'avancer. Si vous reculez à chaque fois qu'elle avance, elle ne va pas arrêter.
Mais si je lui dis, par exemple, écoutez, si je donne mon avis, elle me raccroche au nez. Puis moi, je voudrais pas couper les ponts. Puis alors elle me dit, oui. Je coupe les ponts. Elle est très agressive, hein. Elle est très méchante avec moi. Hein. Elle a fait le même scénario avec ma sœur. Hein.
Là, j'entends dans votre histoire qu'il y a plusieurs histoires, et plusieurs problèmes. Juste concernant votre frère, on a des messages très intéressants qui sont arrivés.
Oui.
Attendez que je les prenne dans l'ordre, parce qu'il y en a eu un petit paquet. Effectivement, Amandine qui nous dit... s'il y a des risques de chute, votre frère pourrait avoir ce qu'on appelle un bip de téléassistance.
Oui, qu'on met autour du cou, je pense. Oui, oui.
Exactement.
Oui, c'est quelque chose qu'on met, oui.
C'est aussi une sécurité complémentaire. Et il y a Mick qui dit l'hospitalisation à domicile est entièrement prise en charge à la demande d'un médecin.
Oui, d'accord.
Donc, je pense qu'il y a quand, il y a quand même des pistes à creuser. Hein.
Oui, je vais noter tout ça tout à l'heure, oui.
Hein, entre
tout
ce qu'on s'est dit là déjà.
Mais je pense... Je pense aussi à la lumière, à l'ampoule qu'on peut mettre et qui est accélérée, si vous voulez, peut-être donner plus de résonance, pardon, à la sonnette avec une ampoule, peut-être. C'est ça que vous m'avez dit.
Oui, tout à fait, qu'il y ait un appel visuel. Comme ça, même s'il est en train de regarder la télé ou même s'il n'entend plus, il peut voir une grosse lumière s'allumer, une lumière rouge, une sorte de...
Oui, c'est ça.
D'ampoule qui est dédiée à ça. Quoi. Oui. Donc ça, c'est pour revenir à des choses concrètes concernant votre frère. Maintenant, je pense que le vrai problème moral, c'est plutôt du côté de votre sœur que ça se passe.
Ah oui.
Et puis, je me sens peur, un peu à bout avec elle. Hein.
Oui, je suis à bout avec elle, oui. Parce que, écoutez, vous savez, moi, je suis très famille. Mes enfants, je suis très bien entourée avec eux. J'ai 3 enfants, on est très famille. Mais moi, je ne vis pas dans un contexte d'agressivité. Je ne vis pas dans un contexte... Moi, si vous voulez, je vis dans un contexte de tendresse, d'affection. Et elle est le contraire de moi.
Oui, parce que comme elle est en souffrance, elle vous agresse. Mais ce que je ne comprends pas, qu'est-ce que vous me dites, je ne veux pas couper les ponts. Qu'est-ce qui se passerait pour vous si les ponts étaient coupés, ne serait-ce que momentanément? Qu'est-ce que ça vous enlèverait?
Écoutez, moi j'aime, si vous voulez, moi, on est 4 filles et un garçon, donc mon frère est le plus jeune, dont je vous parle. Et si vous voulez couper les ponts, n'importe comment, vous savez, si j'écoute mon ressenti, ma voix intérieure, je n'ai plus envie de l'écouter, ça me fait trop de mal. Alors quand elle me dit « on coupe les ponts », on dirait qu'elle dit ça parce qu'elle sait que ça va me faire du mal.
Oui, mais ma question est, est-ce que vous ne croyez pas que ça vous fait Ma question est, c'est est-ce que vous ne croyez pas que ça vous fait plus de mal de continuer à la supporter que de couper? Qu'est-ce que ça vous enlèverait si vous ne la voyez plus pendant un certain temps?
Ben écoutez, je vous assure que je me sentirais beaucoup mieux.
Ben voilà.
Parce que je suis persuadée, convaincue que ça me ferait beaucoup de bien de ne plus l'entendre me parler comme elle me parle, comme un chien.
Eh bien, on est bien d'accord. Et donc, la prochaine fois qu'elle vous dit « tu veux qu'on coupe les ponts », répondez-lui « pourquoi pas ». Essayons pour voir.
Oui.
Je pense qu'elle va être surprise si vous lui répondez ça.
Comment elle risque
d'être, elle risque d'être très surprise si vous lui répondez. Si elle vous dit « tu veux que j'en coupe les ponts », que vous lui répondiez ben « pourquoi pas, essayons pour voir ».
Oui, d'accord.
Sans
d'accord.
agressivité, mais c'est, en plus c'est la réalité, essayez pour voir. Il y a deux solutions, soit vraiment vous êtes en manque et vous vous dites « non, c'est pas possible, il faut qu'on se réconcilie », soit d'un seul coup vous vous sentez beaucoup mieux et là vous vous direz « mais pourquoi j'ai pas fait ça depuis longtemps ?» Vous savez, quand un lien est toxique, soit on se laisse pourrir, soit on le coupe. Il n'y a pas 10 000 solutions.
Oui, merci. Oh, merci, ça me rassure beaucoup. Merci 1000 fois. Écoutez, oui, je vais faire ça. Parce que, écoutez, ça me fait trop de mal, mais je souffre. J'ai une vraie souffrance avec elle.
Donc
une véritable souffrance.
Oui, j'entends bien. Donc, Christiane, allez à l'essentiel, c'est vous et votre frère. Et vous savez, pour aider quelqu'un, il faut tenir debout soi-même déjà.
Oui, merci. Merci beaucoup.
Donc, vraiment,
pensez
à vous d'abord, pensez à lui avec tout ce qu'on s'est dit là tout à l'heure.
Oui.
Et coupez les liens toxiques. La vie est trop courte pour se laisser pourrir, hein, franchement.
Oui. Hein. Merci. Écoutez, il y a longtemps que je voulais vous appeler, et puis j'avais un peu peur parce que j'ai pas trop l'habitude de la radio. Et puis,
ça s'est bien passé.
Oui, je voulais vous dire simplement, du fond de mon cœur, merci Sabine, merci beaucoup.
Merci à vous.
Je vais tout faire, tout ce que vous m'avez dit. Je vous remercie de vos conseils parce que j'étais vraiment très mal.
Et rappelez-moi dans quelques temps pour me donner de vos nouvelles et comment tout ça évolue, d'accord?
Oui, je vous remercie mille fois. Je me répète, mais je vous remercie mille fois.
C'est moi qui vous remercie.
Vous m'avez fait beaucoup de bien. Je vous embrasse très fort, Sabine. Merci.
Moi aussi, Christiane, je vous embrasse. Au revoir.
Merci, au revoir. Merci beaucoup.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Et il me reste le temps d'accueillir Alexandra. Bonsoir, Alexandra.
Bonsoir.
Bienvenue.
Merci.
Alors, racontez-moi votre histoire. Pourquoi est-ce que vous m'appelez ce soir?
Je vous appelle, en fait, c'était suite à une expérience qui a eu, il y a plusieurs semaines, où en fait, c'était après une période de rush au boulot. Il y a eu une soirée avec le boulot, et où j'ai bu pas mal, enfin beaucoup, j'avais besoin de relâcher la pression.
Plus que d'habitude.
Ah oui, bah d'habitude oui, d'habitude je bois pas en fait, je bois pas. voilà. Et j'ai pas de souvenir de la fin de la soirée, j'ai un blackout en fait.
Ah oui, à ce point-là. Est-ce que vous avez bu de votre plein gré ou est-ce qu'on vous a un peu aidé?
Non, j'ai bu de mon... On ne m'a pas du tout aidé.
Personne ne vous a entraîné, vous a forcé la main, rien du tout.
Non, pas du tout.
C'est vous qui vous êtes un peu trop lâché, on va dire.
Ouais, j'avais besoin de lâcher la pression, en fait. C'était les 6 derniers mois qui...
Et c'était quoi? C'était une soirée au boulot, dans le cadre du boulot?
Ouais.
Avec les collègues. Et vous avez réussi à rentrer chez vous après?
Bah, en fait, je suis rentrée avec un inconnu.
Et
je me suis réveillée chez lui.
Mais attendez, vous l'avez trouvé où, l'inconnu, si vous étiez au boulot?
Bah, en fait, non, c'était une soirée avec les gens du boulot, mais après on est sortis.
Ah, c'était pas dans le cadre du bureau, c'était à l'extérieur.
Voilà, c'est ça.
D'accord. Donc vous avez repris conscience à côté de quelqu'un que vous ne connaissiez pas?
C'est ça.
Waouh.
Sans savoir où j'étais, qu'est-ce que je faisais là. Alors il se trouve que, que j'étais pas très loin, j'étais dans le centre, dans le centre-ville de là où j'habite, donc j'étais pas à des kilomètres, mais c'est ça, je me suis réveillée sans savoir, et sans comprendre pourquoi j'étais là.
Oui, ça doit faire bizarre, j'imagine que c'est la première fois que vous avez vécu ça.
Ouais.
Qu'est-ce que vous lui avez dit à ce monsieur en ouvrant les yeux? Qui es-tu?
En fait, ce jour-là, j'avais encore des séminaires, des choses comme ça. Donc, disons que c'est lui qui m'a réveillée. Et donc, je me suis réveillée d'un coup, et sans savoir où j'étais. Et je lui demande, mais où est-ce qu'on est? Et puis, en fait, je regarde par la fenêtre, et là, je reconnais. Donc, je me suis habillée, je suis partie, j'ai filé d'un trait chez moi, quoi.
Vous n'avez même pas parlé avec lui pour essayer de savoir ce qui s'était passé?
Non.
Bon.
Non.
Il vous plaisait pas spécialement?
Si. Enfin, si, parce que... Mais je comprends pas comment je me suis retrouvée... Enfin, je me rappelle pas. Je comprends pas comment je me suis réveillée chez lui et je sais pas ce qui s'est passé chez lui. Même si, j'imagine, mais...
Bah, j'imagine aussi, mais... Et donc, du coup, après, vous êtes sortie comment les jours qui ont suivi?
Ben, bizarre. Un peu partagé, quoi. Jusqu'à présent, en fait, je suis encore... Enfin, ça m'obsède un peu, quoi.
Oui, vous avez frôlé ce qu'on appelle le coma éthylique, hein. Probablement.
Bah, probablement, parce que j'ai eu du mal à me réveiller le matin. Enfin, je me suis réveillée comme si je sortais d'un trou noir, quoi. Enfin... Et puis, je manquais de sommeil parce que j'avais beaucoup travaillé les mois d'avant et voilà quoi.
Mais vous n'avez pas posé la question à vos collègues, par exemple ? Il y a forcément des gens qui vous ont vu ce soir-là.
Si, et donc, alors, y a à la fin, à la toute fin, il y avait de moins en moins de personnes et là, j'ai interrogé donc une des personnes qui était là. Et qui m'a dit que, justement, je discutais avec quelqu'un, voilà.
Oui, c'est un peu léger, mais personne ne vous a vu dans un état vraiment assez dramatique.
Personne ne m'a dit, ne m'a redit ça, non.
Parce que quand
C'est délicat, parce que c'est les gens du boulot, donc je sais pas trop... c'est pas des amis à qui je pourrais aller me confier et leur dire que ça serait important pour moi de savoir ce qui s'est passé. C'est des gens du boulot, donc je peux pas
Permettre de leur dire. Il me semble qu'il y en a un qui est bien placé pour vous raconter ce qui s'est passé, c'est ce garçon, non ?
Bah ouais, justement, mais c'est... Enfin, c'est ma question.
Oui, c'est quoi la question ?
Alors je sais où il est, forcément, où il habite, mais mis à part ça, j'ai pas d'autre façon de le joindre.
Ah, c'est-à-dire que depuis, quand vous êtes partie un peu rapidement le matin ?
Je suis partie d'un coup, oui.
Mais qu'est-ce que vous avez à perdre à essayer de le retrouver, d'aller l'attendre un soir en bas de chez lui, lui dire, écoute, est-ce qu'on peut se parler 5 minutes ? Et lui dire la vérité, simplement que vous êtes pas très bien, que vous comprenez plus. C'est pas un crime non plus, hein. Je suis désolée, c'est pas dans mes habitudes, mais ce soir-là, j'ai trop bu, je me souviens de rien, ça me met mal à l'aise. Qu'est-ce qui s'est réellement passé, quoi ? Sans agressivité, sans rien, simplement poser la question, ça me paraît légitime, non ?
Bah justement, c'était ma question, parce que en même temps, c'est idiot ce que je dis, mais en fait, j'avais peur d'être intrusive, et en même temps.
Non mais tout est dans la manière de faire, il n'est pas question de lui tendre un piège ou l'agresser, il faut juste lui montrer très clairement que vous êtes un peu paumé et juste lui dire écoute voilà je suis désolée, je ne sais pas dans mes habitudes, ça ne m'est jamais arrivé, je pense que j'ai lâché une pression, j'ai trop bu, je ne me souviens plus de rien, je ne suis pas très à l'aise avec ça, est-ce que tu peux juste me dire dans quel état j'étais, ce qui s'est passé ? A priori vous avez couché ensemble, c'est une évidence, mais vous n'êtes pas là pour le... Et si ça se trouve même pas d'ailleurs, si ça se trouve, vous êtes surprise qu'il pourra vous dire que vous étiez tellement cuite que finalement vous êtes écroulée en arrivant, j'en sais rien.
J'aimerais bien.
Mais en tout cas, si vous lui posez la question sans agressivité, sans jugement, juste en lui disant écoute, je suis pas bien parce que c'est bizarre comme sensation, je vois pas pourquoi il vous en voudrait, enfin il y a pas de... Qu'est-ce que vous craignez en fait ?
Je crains d'une part d'être jugée et d'autre part qu'ils disent pas la vérité.
Alors, petit 1, jugé par un inconnu, bon, quelle importance ça a.
Oui, c'est vrai.
Et petit 2, qu'ils disent pas la vérité, je vois pas bien son intérêt, en réalité. Sauf si vous allez maltraiter, mais a priori, vous n'avez aucune trace de maltraitance.
Non, mais je veux dire, si c'est passé quelque chose, il y avait pas vraiment de consentement. Enfin, peut-être que ça pourrait le pousser à dire qu'il s'est rien passé. Voilà.
On a un message de Jackie qui nous dit « Est-ce que vous êtes sûr que personne n'a mis une drogue dans votre verre ?»
On n'est jamais sûr, mais en tout cas, moi, je sais que j'ai beaucoup bu. Donc après, je ne pourrais pas en être sûr. Après, moi, je sais que quand j'ai bu, c'était quand j'étais dans l'environnement... avec les gens du boulot, donc voilà, ça c'est pas possible. Et qu'après, j'ai plus bu, mais c'était déjà fait, quoi.
Oui, plusieurs personnes demandent si vous avez fait une prise de sang pour vérifier. Mais je pense que c'est un peu tard pour faire une prise de sang aussi, là-dessus.
Ça fait plusieurs semaines, oui.
Moi, je pense vraiment que la meilleure chose à faire, c'est d'aller lui parler. Est-ce que vous pourriez au moins rentrer dans son immeuble et peut-être lui mettre un mot si vous n'avez pas envie d'être face à face avec lui ? Parce que peut-être qu'il a une vie, effectivement, peut-être qu'il a une femme, peut-être qu'il a une copine, qu'il n'a pas envie spécialement de vous voir. Et là, je comprends quand vous me dites « j'ai peur d'être intrusive ». Mais peut-être vous pouvez simplement lui laisser un petit message avec votre téléphone en lui disant très clairement voilà ce qui se passe, quoi. Juste, je suis un peu mal à l'aise, dis-moi comment, dans quel état j'étais, ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux m'appeler, m'envoyer un SMS ou un petit mot comme ça?
Ouais, je sais pas si ça peut marcher.
Bah, soit vous l'attendez, à un moment donné, vous êtes sûr de le croiser quand il rentre chez lui, mais toujours pareil, de manière ouverte, on ne sait pas pour l'instant, vous n'êtes pas là pour l'agresser. Hein.
Non, ouais. Non,
tout ce qui vous embête, en fait, c'est de ne pas savoir.
Bah, ouais. Enfin, je sais pas ce qui m'embête, mais en tout cas, je sais que ça va pas de pire. Donc, je pense que oui, c'est ça.
Sinon, moi, je vous conseillerais aussi d'essayer d'aller faire une ou deux séances d'hypnose.
Ouais.
Parce que par définition, c'est comme quand on est un peu tombé dans les pommes, vous étiez là. Il y a une partie de vous qui ne se souvient pas, mais vous étiez là. Donc, vous avez vécu tout ce qui s'est passé. Simplement, ça n'est pas remonté au conscient. C'est quelque chose qui s'est inscrit dans votre inconscient. Ouais. Donc si vraiment vous n'avez aucune information et que vous voulez peut-être essayer de creuser un petit peu, peut-être faire une ou deux séances avec un bon hypno pour aller voir un peu s'il y a des choses qui remontent. Des images, des sensations qui sont quelque part là.
Ouais.
La question aussi, oui, qui est un peu plus crue, mais qui se pose aussi, est-ce que vous avez été protégée cette nuit-là?
Bah, c'est une de mes questions. Après, il n'y a pas de risque de grossesse dans le sens où voilà, j'ai eu mes règles quelques jours après. Donc,
non, là, voilà. Vous êtes tranquille de ce côté-là.
De ce côté-là, je suis tranquille, mais je sais pas, je pourrais pas dire, justement. Et
ouais, justement, non, honnêtement, parlez-lui à ce garçon, Alexandra, parlez-lui. De toute façon, au pire, s'il ne vous répond pas, vous en serez au même point que là que vous en êtes maintenant.
Ouais. Voilà.
Ça ne peut pas être pire. Au mieux, vous avez une conversation entre adultes, et il vous rassure, c'est peut-être quelqu'un de bien qui a juste, voilà, qui lui aussi a passé une soirée où vous êtes amusée, il en a profité ou pas. D'ailleurs, vous étiez probablement consentante, d'après ce que vous me dites.
Bah, ouais, enfin, j'étais. Oui, c'est sûr que. Bah, oui, enfin.
On a quand même.
À partir du moment où je me rappelle, j'étais partante, on va dire. Après, je sais plus.
Il y a plusieurs personnes qui se demandent si vous êtes sentie flotter pendant au moins 24 heures après. Et qui mentionne toujours cette drogue, vous savez, le GHB.
Ouais, j'étais. Bah après, j'étais un peu bizarre pendant les 48 heures après, ouais. J'étais.
Parce que c'est que je ne sais pas pendant combien de temps il peut y avoir des traces dans le sang. Ça faudrait peut-être demander à un médecin.
Non, plusieurs semaines après, je sais pas trop. Mais...
Peut-être effectivement faire une prise de sang, ça coûte rien, de toute façon. Mais je pense que l'idéal, c'est quand même de lui parler. Hein.
Ouais.
Vous verrez bien ce qu'il vous dit. Une fois de plus, vous n'avez rien à perdre.
Non, c'est vrai. Bah, à part.
À part quoi?
Je sais pas, à part qu'il soit insultant, j'en sais rien.
Bah, si vous ne l'êtes pas, vous, si vous lui dites clairement que c'est juste pour savoir ce qui s'est passé, normalement, enfin, je vois pas très bien pourquoi il pourrait s'énerver, mentir, enfin, il n'y a pas vraiment de raison. Ou en tout cas, en fonction de sa réponse, vous pourrez quand même avancer.
Oui, tout à fait.
De toute manière. S'il a une réponse bizarre ou agressive, c'est qu'il y a un truc un peu louche. Si ce n'est pas le cas, ça pourra vous rassurer.
Oui. Ouais. Ok.
En tout cas, peut-être que ça vous serve aussi un peu de leçon pour la suite, être toujours prudente ou en tout cas accompagnée par quelqu'un dans ces soirées-là.
Surtout être prudente. Faire attention.
Faire attention à vous, et puis effectivement, l'idéal, c'est quand même de parler à quelqu'un de proche. Un collègue ou une amie en disant « reste pas trop loin, quoi. Surveille un peu ce qui se passe. »
Ouais.
Ne me laisse pas
partir. Mais là, autour de moi, j'ai osé en parler à personne. Enfin, j'ai pas osé en parler à mes amis parce que par peur d'être jugée. J'ai pas osé en parler à ma famille parce que, bon, bien sûr, voilà. Et donc, c'est un peu difficile à garder, quoi.
Vous avez un bon médecin généraliste?
Non, pas vraiment.
Ben, peut-être c'est le moment d'en trouver un. Je pense que ça serait bien d'aller en parler à un médecin. Déjà pour en parler à quelqu'un, pour qu'il vous prescrive une prise de sang. Hein,
ouais.
Déjà, et puis aller parler à ce garçon.
Ouais.
Ça vous fera déjà avancer un petit peu. Et surtout, faites attention à vous maintenant quand vous sortez. Hein.
Ouais.
D'accord, Alexandra,
merci de vos réponses. Ouais.
Avec plaisir. Bonne soirée à vous.
Bonne soirée, au revoir.
Au revoir. Et oui, c'est déjà fini, le générique de fin est lancé, la libre antenne se termine. Merci à vous Alexandra, merci à Marie-Christine, à Christiane, à Sandrine qui sont venues ouvrir leur cœur, nous parler d'eux, souvent de façon extrêmement touchante. Demain soir à ce micro, vous retrouverez Sophie Peters à partir de 22h30. Je vous retrouve avec grand plaisir à partir de vendredi prochain. Et je vous quitte avec cette citation. Si tu veux quelque chose que les autres n'ont pas, il faut faire des choses que les autres ne font pas. Passez une bonne nuit dans un instant. La suite, ce sera Pierre Bellemare avec ses histoires extraordinaires. Il est 1h du matin.